la personnalité, mais qui implique, qui induit le corps et l'environnement, ça c'est identique à lui-même. Non, ça nous échappe. Bon, on se voit un par rapport au reste. Donc, il dit, le souverain de la loi, que, au fondement de la pensée des philosophies extérieures au bouddhisme, il y a l'existence du moi. Le moi, autrement dit soi-même, est le fait de croire à tort que nous vivons en tant qu'existence fixe. Or, l'attachement au moi est la cause du cycle dans les mauvaises voies. Le fait de se considérer comme un moi autonome, décisionnaire, par rapport au reste, libre du choix qu'on fait, ça, c'est la cause des souffrances multiples, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais la référence au moi est difficile à supprimer. On ne peut pas entendre ou voir sans se référencer en tant que sujet, percevant un objet. Mais pourtant, cet attachement au moi, en tant qu'existence fixe et libre, et ça, il dit, c'est pas, ça, c'est pas beau. Des souffrances naissent de cela. Aussi, dans le sutra de l'éveil parfait, c'est également dit, il est dit, depuis l'infini des temps, tous les êtres entretiennent des pensées fictives et s'agrippent à l'existence d'un moi, d'une personne, d'un être animé et d'une durée de vie. Les êtres considèrent ces quatre aspects des choses distordues comme l'essence réelle de leur moi. Donc le moi, la personne, l'être animé et une durée de vie. Le moi est un jaillissement instantané, donc on n'est pas libre, on n'est pas décisionnaire, on ne peut que constater. Donc Schopenhauer disait, le caractère de la personne se découvre, ce n'est pas un acte. À 30 ans, vous comprenez que vous êtes inscrite comme ceci ou comme cela, différent de quelqu'un d'autre. Mais ça n'a pas été une volonté, ça n'a pas été l'expression d'une volonté, vous découvrez votre personnalité. À 8 ans, 18, 25, 45 ans, on découvre, bon. Donc, le moi, la personne, l'être animé, la durée de vie, tout ça c'est faux. Il n'y a pas une durée de vie de quelqu'un parce qu'il n'y a pas de point de départ, ni commencement, ni fin, ni naissance, ni mort. Et il n'y a pas d'être animé, il n'y a pas d'être vivant, parce que ce qui apparaît en tant que effet n'a pas le principe de son existence. C'est vrai que dans le bouddhisme, on appelle être vivant seulement ceux qui rentrent dans la voie. Parce qu'eux vont sortir du cycle des six voies où ils apparaissent toujours comme effet. Donc, Shakyamuni dira, Shubhuti le vivant, Ananda le vivant, un tel le vivant, pour nommer ses disciples. Mais quand disait que le phénomène.
Et d'Armand,
on s'en sort comme ça.
Quand disait que, il était quand même un peu honnête, quand disait que le phénomène, c'est ce que l'on perçoit dans le temps et dans l'espace. Mais on ne voit pas l'en-soi du phénomène. S'il est réellement, on ne le voit pas. Nous, on voit un phénomène parce qu'on a des yeux qui sont trompeurs. Hein, comprenez ? Deux yeux, un objet perçu, vous êtes baisé. Deux oreilles, un son, vous êtes baisé aussi. Tout est toujours retraduit par l'organisme. Donc Kant s'en était rendu compte et il a dit, le phénomène, bien sûr, on le voit dans le temps et dans l'espace, mais l'être en soi du phénomène, on ne le voit pas. Donc il a eu l'honnêteté quand même, Kant, de dire que on pouvait rien dire sur l'être en soi, des êtres. Et il avait aussi l'honnêteté de dire que le temps et l'espace ne sont pas des choses dans lesquelles les phénomènes sont plongés, mais que le temps et l'espace viennent de l'observateur et de son intuition instantanée.
Les formes a priori de l'espace et du temps.
Voilà, donc, parler, donc c'est honnête. C'est honnête.
Quelque part, c'est bien.
C'est vrai. C'était bien le cas. Pour un théologien, c'était honnête quand même.
C'est les bâtisses qui créent en fait.
Quoi ça?
Mais le fait qu'il y ait souffrance, c'est quand on s'attache justement à. C'est parce qu'on s'attache que juste à l'existence.
Oui, bien sûr, bien sûr. N'importe qui veut durer, n'importe qui veut ne pas être malade, n'importe qui veut en plus être plus ou moins beau, plus ou moins intelligent, plus ou moins performant. Bien sûr que les gens voudraient. Bien sûr. Donc, il est dit que c'est dans la conviction que sa propre existence, moi-je, est une entité absolue, éternelle et indépendante que réside l'attachement au moi, qui est la conception erronée des gens qui ne pratiquent pas le bouddhisme. Bien entendu, dit-il, nous existons. Cependant, cette existence n'est que le fruit de l'interdépendance des causes et des conditions. Cette existence varie selon nos actes. Le moi indépendant et immuable n'existe pas. Pause. Il faut déposer. Donc, alors on disait que le moi indépendant n'existe pas. Hein, que c'est un malheur que de ne voir tout le monde le croire et s'y attacher. Aussi, à propos de ce constat que les gens font quand quelqu'un meurt, on dit, en général, hein, chez les gens, on dit, bah, au moins là où il est, il se fait faire plus. Bon. Les gens sont gentils. Mais aussi, il se passe autre chose, c'est que on canonise les gens. On met l'étiquette de sainteté sur un tel qui a vendu des cacahuètes pendant 10 ans sans gagner d'argent, c'est un saint. Donc, on met cette étiquette, saint, bravo, là où il est, il ne souffre plus. Seulement, le Bouddha dit que tous ces gens qu'on peut croire être supérieurs ou divins ou saints, comme ça, ils ont été nommés comme ceci, comme cela, Nichiren dit que, en fait, ils grimpent comme des chenilles arpenteuses, mais lorsqu'ils reviennent du ciel, ils tombent dans les mauvaises voies, mais personne ne les voit venir. Donc il dit, on voit les gens mourir et on dit, ah ben maintenant, là où il est, il sera mieux, mais on voit pas le retour, on voit pas la reprise de corps. Parce qu'il y a toujours corps. Donc nous, on se dira, il n'y a plus de corps, donc il est sauvé, enfin il est sauvé, pas de la mort, mais de l'existence souffrante. Mais en fait, il n'y a pas. Ça continue exactement pareil.
C'est l'état de vie, en fait.
C'est l'état de vie. C'est l'état de vie, bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, c'est parce que les gens ne voient pas que ça revient, qu'ils ont le sentiment qu'ils sont bien partis. Mais, un jour, avec mon fils, il fait du droit, mais ça ne va plus malin pour autant, il me dit, oui, un mec qui se suicide, il abandonne ce qu'il aime. Alors, sa mère, psychanalyste et moi, on a fait un bond, en disant, mais non, il part avec ce qu'il pense. Donc, il abandonne surtout pas ce qu'il est. Parce qu'il est sûr que, bien sûr, bon. Donc, il est dit que rien, même le karma, n'existe de manière individuelle ou en tant que moi indépendant. Toute chose existe à l'intérieur du jeu des causes et des conditions du monde des phénomènes de l'univers. Aucun corps, aucune existence n'existe en tant qu'individualité. L'aspect de la causalité est que chaque chose fait partie du tout, changeant en bien ou en mal, mais tout en étant en mutuelle relation avec le reste. C'est le fait de croire exister en tant qu'individu, en soi-même, qui fait naître l'attachement au moi, et par là même, au vu de l'interruption de soi-même, ou au vu, qui sont aussi fausses, de la permanence identique de l'âme. Donc il n'y a ni interruption à la mort, ni permanence d'une âme. C'est pas ça. Cela, ça fait souffrir. Ça entraîne de la souffrance. Pour l'instant, j'ai pas les poignardés, on continue donc. Donc, il est dit. Lorsqu'on perçoit son moi véritable, nous-mêmes, tel quel, devenons l'intégralité du monde des phénomènes. Ça, c'est ce que permet l'éveil, en pratiquant. Percevoir que son propre moi véritable s'étend à tout ce qui est, et n'a jamais pu ni apparaître, ni disparaître. Ça, on peut le faire en pratique. Et le souverain de la loi dit encore, une existence, donc un dharma, communique avec toute chose et est telle qu'elle une existence inconcevable. Inconcevable parce qu'on ne peut pas la voir. On ne voit jamais un individu tel qu'il est. Bien sûr. Comme disait Merleau-Ponty, il dit, voir en réalité, ce n'est pas voir, c'est voir mon corps. Bien sûr.
Soi-même.
C'est se voir soi-même.
Projeter soi-même.
Bien sûr. Un chien voit un monde de chiens, un kangourou un monde de kangourous, et un lépreux un monde de lépreux. Bien sûr. Normal. Oui. Voilà. C'est le corps provisoire instantané qui toujours détermine l'objet personnel. Et il ne voit que ce qu'il est. Pas d'objet. Il ne passe jamais la réalité en face. Essayez de vous expliquer avec votre mère, vous verrez bien. Donc il est dit aussi. Et je connais personne en fait, hein, voilà. Donc il dit, chaque phénomène est ainsi égal et en non-dualité avec le monde de l'existence inconcevable. C'est cela, en fait, qui se passe. Du reste, je crois que c'est Anaxagore qui disait, le phénomène est ce que l'on voit des choses invisibles. Donc ce qui nous apparaît à nous en tant que phénomène, c'est bleu, c'est jaune, c'est grand, c'est petit. En fait, c'est ce que l'on voit de choses invisibles. On ne distingue rien, en fait, de la réalité. Voilà, par exemple. Aussi. Ah, là, vous allez rire.
Ah,
bah, juste, il n'y a que ça. Il n'y a que ça.
C'est obligatoire.
C'est pas optionnel, négociable. Non, non.
Si tu penses que le SMS ça marche, tu peux le faire, hein, mais je doute. Hein. Profondément, je doute. Hein. Je doute. Comprenez en outre que le langage, c'est un accord tacite et local. Hein, c'est un, quelque part, un endroit, un moment de langage. Bon. Et qu'en fait, le mot, dont le langage est tissé, que le mot, lui, reste à peu près identique, bon, pas banane, ça va rester un certain temps, mais que le mot, le concept banane, ne désigne que les objets qui sont jamais identiques. Donc le langage, qui est un truc provisoire, qui est un truc local, pas étendu, désigne des choses avec les mots, mais les choses ne sont pas désignées parce qu'elles échappent. Le mot, lui, est. Mais la chose, tu sais pas. Tu sais pas. Donc, avec les mots, parler avec quelqu'un, impossible. Impossible. Il n'y a pas de communication réellement. Par contre, c'est vrai que, en pratiquant, et même sans que la personne soit là, tu peux la ressentir en toi. Ça, c'est vrai. Ça, je l'ai vu. Et avec le blabla, avec la poussée, avec ma mère, je peux lui poser des choses. Ça revient. Il n'y a rien à faire. Ni les cierges. Donc, alors là, je vais vous faire rire. Le souverain de la loi dit que l'être humain, tant qu'il vit, s'exprime en tant que son et en tant que corps, devenant alors écho et ombre après sa mort. Ça, je trouve que c'est drôle. Dire que l'être humain, tant qu'il vit, s'exprime en tant que son et en tant que corps. En tant que corps, indiscutablement, ce qui est existant est un corps. Petit, grand, tout ce que vous voulez. Mais qu'ils disent qu'ils s'expriment en tant que son, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que quand vous flippez, ou quand vous pensez à quelque chose, ben vous entendez. Donc l'être humain s'exprime en tant que son parce qu'il entend en lui. Donc le langage, l'expression du langage à l'extérieur, à quelqu'un, n'est toujours que la transposition de l'entendu en soi. Mais l'entendu en soi, c'est pas un acte, c'est un effet. Donc, quand il dit que l'être humain, tant qu'il est vivant, est corps et son, le corps est un effet, le sens qu'il entend est un effet aussi. C'est ce qu'on appelle la pensée. Mais la pensée, c'est un son. Un son qui n'a pas de point de départ, qui n'a pas d'origine. Donc le corps est une structure provisoire, le son entendu est également une structure provisoire. Et bien ces deux structures provisoires, que sont donc le corps et l'esprit, sont la résonance présente d'une infinité. Qu'on ne peut pas mesurer. Et qui induit une autre infinité devant. Non. Deux infinités pour le prix d'un. C'est cool, non?
Bien entendu, il y a une collection de l'état de vie.
Bah oui, évidemment. L'entendu, c'est l'état de vie.
Jamais un acte, en fait.
Un acte décisionnaire, bien sûr. Ce que tu entends, c'est l'état. Ce qui va se traduire par des mots. Par des mots.
Oui, mais on prononce toujours à la base.
Bien sûr.
Les petites voix intérieures.
Hein, donc, penser, c'est entendre.
Oui.
Penser, c'est entendre. Hein. C'est pas un acte. Donc,
on subit on subit ce qu'on
et c'est peut-être ça, le passage de la sensation au sentiment. La sensation que tu ressens, etc. Et dès lors, t'as ces petites voix intérieures qui sont plus formelles à travers des mots ou certaines idées, tu passes peut-être à quelque chose qui ressemble au sentiment.
C'est qu'après, tu canalises, en fait, tu focalises, en fait, sur, ça, dans les obsessions, par exemple, t'as les pensées obsessionnelles. Un sentiment, c'est une pensée obsessionnelle,
en fait. Oui, bien sûr. Non, mais,
un truc que tu ressasses, quoi.
Souvent, on dit, qu'est-ce que je veux dire? C'est que le verbe intérieur a été tellement rapide que pour l'ouvrir et le développer pour quelqu'un, ça prend du temps. Mais en même temps même qu'on le développe, d'autres mondes, déjà. D'autres se succèdent. Hein? Bon. Donc. Heidegger dit, il n'a pas inventé la poudre, mais bon, néanmoins. Heidegger dit, parler est avant tout écouter. C'est juste. Il a raison. Il dit aussi, la parole parle elle-même. Ah oui?
Mais,
mais regardez-vous, à chaque instant, bien que je pose, vous êtes assailli par des propos qui montent de vous. Voilà, tu parles. Donc aussi, Heidegger dit que la parole est toujours déjà en avance sur nous, nous ne faisons jamais que parler à sa suite. C'est normal. Et qui plus est, ce qu'on appelle la parole, le son qui monte, c'est vrai pour l'écureuil, c'est vrai pour pour la vache, c'est vrai pour tout le monde, hein, pour tout ce qui est. Il y a une notion qui se traduit par un son entendu qui est l'éteint. Bien sûr, un corbeau qui croit comme ça dans l'air, c'est ça. S'il entend, c'est son éteint. Donc ce qu'il produit, c'est son éteint. Je ne sais pas comment on pourrait penser différemment. Donc aussi, Nietzsche dit, une pensée surgit en moi, d'où vient-elle, à travers quoi je l'ignore. Elle se présente indépendamment de ma volonté. Schopenhauer disait, la pensée vient quand elle veut et non pas quand je le veux. Ah ben oui, bien sûr. Bien sûr. Donc c'est toujours cette histoire qui en fait le son que l'individu, tant qu'il est, il est son et corps. Eh bien, ça n'a pas de point de départ, ça. Ça n'a pas d'origine. On ne peut pas remonter au point de départ où tout a commencé la cause première, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, Nietzsche dit, c'est de la même manière que l'homme qui écrit la nuit sur une feuille, les mots demeurent même après l'extinction de la lumière. C'est-à-dire, vous écrivez la nuit, vous éteignez la lumière, le matin vous réveillez, ah, il y a encore les mots. Voilà. Donc, il en va de même, c'est-à-dire que même s'ils sont invisibles durant la nuit, les mots restent. Eh bien, ainsi, les actes, l'ensemble des actes commis par un être humain au cours de sa vie semble disparaître à la mort, mais ça ne disparaît pas. Ça continue. C'est sa suite. Il n'y a rien qui s'efface. Donc il dit, le karma ne peut disparaître. Nous, on verra nuit et jour, naissance et mort, mais il n'y a pas.
Le karma, qu'est-ce que ça
peut être? Les actes.
Et pas l'accumulation.
Vous pouvez penser en termes d'accumulation.
Je dirais que c'est l'état d'une vie. Voilà, l'état d'une vie, je vais comme ça.
Voilà. C'est une foule. C'est une foultitude de conditions qui font l'effet à chaque instant différent.
Les karma, c'est l'effet de l'effet de l'effet.
Voilà. C'est une foule, ouais, à chaque instant.
C'est pas le sac à dos, de la personne,
le Non, il n'y a pas de temps. Donc, Nichiren dit. Oui, il n'y a pas de temps, il n'existe pas le temps. Il faudrait qu'on ait un point de départ pour qu'il y ait du temps, donc c'est pas
possible. Ça ne servira à rien de s'indiquer.
Donc, pardon. Mais du coup, dans le temps, c'était dit dans l'enseignement provisoire. On disait, il faut plusieurs vies pour effacer les actes, mais c'est pour ce moment. Donc, Nietzsche dit, au plus vite, rectifiez l'attachement à votre petite croyance. Donc, le souverain de la loi dit, notre vie quotidienne elle-même existe entièrement en fonction de notre type de foi et de vénération. Même ceux qui prétendent ne pas avoir de religion, d'une manière ou d'une autre, ont foi en quelque chose. La vie quotidienne a existé dans le passé, elle existe à présent, elle existera dans le futur, constamment sur la base de la foi et de la vénération. Autrement dit, c'est notre vie, passé, présent, futur, a toujours été ce que l'on croit et ce que l'on vénère. Toujours. Notre malheur, nos souffrances ne sont que ce que l'on croit et ce que l'on vénère. Seul, sans commencement, il faut. C'est beau, hein. Ah oui, ils disent. Ah oui, je vais celle-là aussi. Voilà. Moi, là, ça va commencer à devenir plus facile pour tout le monde. Nietzsche parle de l'agonie que les êtres ressentent et de la souffrance de l'agonie. Donc, Nietzsche dit, l'agonie, c'est ne plus pouvoir respirer. C'est parce qu'ils ne possèdent pas la vie du chapitre durée de la vie qu'ils sont à l'agonie. Parce que recevoir et croire dans les enseignements des maîtres erronés s'appelle boire le poison. Donc, on va parler du chapitre durée de la vie, on pratique matin et soir. Il dit, recevoir et croire dans les enseignements des maîtres erronés s'appelle boire le poison. Ça veut dire, si on entend des conneries et qu'on les croit, on souffre de ce que l'on garde en soi, qui secrète son poison à l'intérieur, qui nous empoisonne. Donc il dit l'agonie, c'est parce que les êtres ont écouté des conneries qu'ils ont gardées en eux comme étant vraies. Donc ils vivent le côté néfaste de ce qu'ils ont gardé en eux qui est faux. Donc maintenant, qu'en est-il du chapitre durée de la vie dont il est dit là que c'est pour guérir de l'agonie les êtres. Donc dans ce qu'on récite matin et soir, voici quelques extraits. Shakyamuni dit, dans ce chapitre durée de la vie, tiens.
Tous les dieux, hommes et Asura,
c'est des démons.
Tous les dieux, hommes et Asura de ce monde croient que, après avoir quitté le palais de Shakya, le Bouddha Shakyamuni s'assit à l'endroit de la révélation, non loin de la ville de Gaïa, et atteignit là l'illumination suprême. Pourtant, hommes de foi sincère, le temps est sans limite libre. 100 000, 10 000, 100 000 myriades d'éons se sont écoulées depuis que j'ai réellement atteint la bodhi.
Aussi, il dit, quelques vaches plus loin, depuis que j'ai atteint la bodhiité, une période inimaginablement longue s'est écoulée. La longueur de ma vie est d'innombrables éons. Ma vie a toujours existé et ne finira jamais. J'ai aussi, jadis, pratiqué les austérités de Bodhisattva. Et la vie que j'ai acquise alors n'est pas épuisée encore. Elle durera encore deux fois plus longtemps. Bien que je ne meure jamais réellement, je prédis ma propre mort aux êtres. Par ce moyen, le Bouddha enseigne aux hommes. Donc pour lui, dans l'éveil, il réalise que sa vie ne peut ni apparaître ni disparaître. C'est ça l'agonie, c'est de ne pas savoir ça. C'est de ne pas savoir qu'on ne peut ni apparaître ni disparaître. La raison en est, dit-il, que le Bouddha perçoit le véritable aspect du monde, tel qu'il est. Il n'y a ni flux ni reflux de la naissance et de la mort, ni vie dans ce monde, ni anéantissement après. Croire qu'il y a une vie dans ce monde, c'est se situer comme étant percevant un monde réel. Or, c'est faux, c'est le vôtre. Vous ne voyez jamais que votre propre monde. Chacun voit le sien. Penser qu'il y a naissance et mort, c'est faux également. Il n'y a pas. En ça, le Bouddha le voit. Et quant au fait qu'il dit « Jadis, j'ai pratiqué les austérités de Bodhisattva », ça c'est directement pour nous, c'est l'état de vie qu'on doit développer maintenant, bien entendu. Hein. Et maintenant, voyons voir chez les vieux ce qui s'est passé d'intéressant. Parménide, dès les 440 avant Jean-Claude, devant J.C. Donc lui dit, il parle de l'étang, ce qui est. Il dit, le même est restant dans le même, il se tient en soi-même, et c'est ainsi qu'il reste planté là, au sol, car la nécessité puissante le tient dans les liens de la limite qui l'enclôt tout autour. C'est pourquoi il est de règle que l'étang ne soit pas dépourvu d'achèvement. Tandis l'étang est immobile, il est cloué au sol et il est achevé. Tout ce qui est toujours achevé à chaque instant. Il n'y a pas un moment où ça manquait de quelque chose. Aussi, Parménide Délé dit, à propos de l'étang toujours. Alors, immobile dans les limites de large lien, il est sans origine et sans fin, puisque naissance et mort ont été rejetés. Il dit également, l'étang est tout entier plein d'étang, car de l'étang touche à de l'étang. C'est ce qu'on disait au début, c'est qu'en fait, le fait d'être, c'est une infinité de choses organisées à chaque instant en soi, à côté d'une infinité de choses qui existent également, elle-même pleine de choses qui existent également, tout ça c'est infini, mais ça naît et ça meurt à chaque instant, bien sûr. Et Parménide dit encore, à propos de la durée, ou du temps, il dit, le temps n'est ni ne sera quelque chose en plus de l'étang, puisque c'est lui que le destin a attaché pour qu'il soit complet et immobile. Donc Parménide dit, le temps n'existe pas. Et du reste, si on prend la logique bouddhique, en quoi la cause et l'effet sont simultanés, il n'y a pas de durée. Il y a effervescence à chaque instant, sans commencement ni fin. Et Parménide encore dit, à propos de ce qui a disparu, donc le défunt, il dit, regarde par la pensée les choses qui ne sont pourtant pas là comme étant là, fermement. Car tu ne pourras pas couper l'étang à part de l'étang, qui ne se tiendra donc ni dispersé partout en toute manière de par le monde, ni rassemblé. Comme la réalité t'échappe complètement, même ce qui a disparu, considère-le par la pensée comme étant présent, car tu ne peux pas, toi, trancher dans ce que tu ne vois pas en disant il y a ou il n'y a pas. Tu peux le faire, mais tu en souffriras, beaucoup plus quand t'es veillant à ce qu'elle ose. Eh ben oui. Et pensez pas que je suis méchant, hein, c'est parce que c'est écrit. Aussi, et alors on va terminer bientôt là, je sais pas non plus que vous ayez mal à la tête. Alors, dans ce cas,
notre capacité d'endurance,
un petit quart d'heure.
C'est toujours là, présent, immobile.
Ouais, mais je sais pas ce que vous pensez pendant ce temps-là, c'est vrai. Hein.
On écoute. Oh, les gens, on est
donc, le souverain de la loi dit que pour la logique du monde, aussi bien que pour la logique dans le bouddhisme ou en général pour les gens, la présence permanente de la loi est relativement facile à comprendre, la loi, c'est-à-dire en fait l'éveil à la loi bouddhique. Évidemment, quand Shakyamuni s'éveille, il s'éveille à la loi. Bon, c'est l'éveil. Mais s'il s'éveille à la loi, c'est qu'avant elle était là. Bon, donc elle était là avant, elle était là pendant, elle sera là après. Donc tout le monde comprend que la loi à laquelle Shakyamuni s'éveille est permanente. Bon. Par contre, dit-il, la présence permanente de ce corps tel quel est difficile à saisir. Donc il dit la présence permanente de la loi est évoquée dans tous les textes. Par contre, la présence permanente du corps physique n'apparaît nulle part. Et il dit encore, chacun pense que son propre corps disparaîtra immanquablement. Pourtant, dans le chapitre durée de la vie, Shakyamuni dit, je suis toujours présent ici en ce monde de l'endurance et j'enseigne la loi. Donc voilà ce que le Bouddha voit. Les humains voient autre chose, certes, mais on n'est pas contraint de rester dans la médiocrité humaine encore des siècles. On peut faire mieux. Et donc, à l'époque de Shakyamuni, les gens qui se sont éveillés grâce à son enseignement, donc il dit à leur propos que ils se sont éveillés à l'identité de la loi merveilleuse du passé infini et de leur propre vie. Donc ils se rendaient compte qu'eux-mêmes étaient sans commencement ni fin. Ils étaient la loi. Que la loi était eux. Et le souverain de la loi dit, là réside l'aspect de l'éveil dès ce corps, identique à la fleur de lotus, substance de la loi merveilleuse, où le corps et l'effet sont simultanés dans l'or du temps. Donc comprenez bien que la cause et l'effet sont simultanés, et que cela est hors le temps. Donc nous ne sommes pas dans le temps. Tout est hors du temps. Le temps est une construction. Donc, Aristote dit le temps est le nombre du mouvement.
Mmh.
Ouais. J'ai bon, il y a un truc qui est là. Donc tu comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc alors, il dit le temps, on a compté 8. Donc il dit le temps est le nombre du machin qui se déplace. Sauf que Aristote part du principe que le machin est identique à lui-même. S'il pense qu'il est instantané, il ne se déplace pas. Que quoi instantané, rien ne se déplace. Donc, pour penser que quelque chose se meut, il faut considérer avant que la chose se meut à l'identique. Or, c'est faux. Une flèche que vous envoyez en l'air et qui arrive à 200 mètres, elle ne peut pas être la même lorsque vous l'avez envoyée. Vous pouvez dire, oui, c'est ma flèche, enfin, elle est bleue. Bon, d'accord, ce sera identique. Mais dans la réalité, c'est faux. D'accord?
Un individu peut pas être le même à 5 ans.
Voilà, même à une demi-heure près, ou même à 10 minutes près. C'est un raccourci, c'est une fainéantise de l'esprit que de voir l'identité. Ça, c'est clair, bien sûr.
C'est rassurant, quoi.
Ben, c'est rassurant, faut bien vivre aussi, hein. Imaginons qu'on sache plus où est notre barrage ou notre voiture pour rentrer, on va être emmerdé quelque part aussi. Mais qu'elle vieillisse, on n'est pas surpris.
Mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on n'est pas surpris de vieillir alors que, on dit je. Alors qu'en fait, c'est jamais
pareil.
Oui. C'est dans la vie. Non mais on a, ben, je sais pas, parce que si c'est identique, il peut pas y avoir vieillissement. Si c'est un truc identique qui se déplace dans un temps donné, il peut pas y avoir.
C'est identique, il peut pas vieillir.
Si c'est identique, il arrive là 50 ans plus tard, il est le même. Et donc il y a une contradiction et personne ne le voit.
D'ailleurs, je l'analysais, s'il est identique, il peut pas vieillir. Ouais. Et s'il change tout le temps, il ne peut pas vieillir non plus. Les deux sont vrais.
C'est vrai que quand tout le monde gobe ça, tout le monde nous aussi, mais je sais pas qu'on gobe ça, sans rien dire. Alors que c'est
quoi,
complètement.
C'est bon. C'est toutes les contradictions qu'on va gérer le maître.
C'est pour ça qu'il arrive
là sous la. Bon, on arrête là, il est 9h30, non, c'est bon.
Alors
moi j'en ai encore, mais on
va. Ah, un petit chouïa, arrêtez quand même. Un petit chouïa pour la route.
Un petit chouïa. Donc voilà, bon, on va finir là-dessus, parce que c'est sympa. À propos de nos illusions, de notre bêtise, de nos angoisses, notre incompréhension, notre lâcheté, à propos de tout ça. On peut se tromper. Donc le Bouddha dit, d'une manière générale, la domination des illusions ne constitue pas la finalité du chapitre durée de la vie. Par contre, elle réside dans la capacité de comprendre que la substance des hommes ordinaires est telle qu'elle présente à l'origine. On ne peut pas échapper à l'existence, parce qu'il n'y a que ça, et que ce que nous sommes est présent à l'origine, qu'il n'y a pas de temps, et que l'espace, c'est notre propre corps. Mesdames et messieurs, à plus.
En effet, hein.
En effet. Et voilà.
Alors justement, dans le deuxième, donc la sœur Mipo,
donc,
la
carotte,
là.